I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Avant de démarrer l'épisode, souvenez-vous, si vous aimez Année Lumière, vous pouvez soutenir l'émission via le site Utip, U-T-I-P. Merci à ceux qui m'aident déjà tous les mois à produire la meilleure des émissions possibles. Ce mois-ci, mon invité est docteur en études cinématographiques de l'Université de Paris. Elle a également collaboré au magazine Trafic, Écran ou encore Revue et Corrigée et à l'ouvrage collectif Samuel Fuller, Le Choc et la Caresse. Elle a également dirigé l'ouvrage La prise au départ du cinéma. Cette personne brillante et passionnante, c'est Sarah Ohanas. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
De rien, je suis contente de parler d'une année qui n'est pas très évoquée.
Ouais, bon, bah, tu verras, c'est ça aussi le plaisir d'Année Lumière, c'est de parler de toutes les années et de voir que toutes les années sont intéressantes et valent le coup d'être discutées. Mais en tout cas, merci encore d'être dans Année Lumière. Alors ce mois-ci, tu as commencé à le dire, Sarah, on s'en va faire un tour il y a un peu plus d'un siècle pour discuter d'un millésime niché entre l'un des plus gros conflits du XXe siècle et le début de ce qu'on appelle les années folles. Une année forcément particulière, charnière, début de nouvelles aventures ambitieuses pour certains, de coups de gueule cinématographiques et moraux pour d'autres. Une année comme une renaissance qui marque aussi de grandes premières et le début de carrières de cinéastes qui façonneront à leur manière, par leurs films, aussi un peu de ce siècle qui redémarre. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1919. Pretty Girl is like a Melody d'Irving Berlin. On écoutait ça en 1919. Alors Sarah, pourquoi avoir choisi l'année 1919? Pourquoi cette période-là particulière?
Alors parce que je me souvenais de certains films qui m'avaient particulièrement marqué, notamment un film de David Ward Griffiths qui s'appelle Broken Blossoms, où on voit Lillian Gish en jeune femme désespérée, battue par son père qui est boxeur. Et parce que c'est une année importante, comme on va l'aborder par la suite, d'un point de vue de la voix des artistes qui se fait enfin entendre grâce à la création d'une nouvelle maison de production qui s'appelle United Artists. 1919, on voit déjà comment le vocabulaire cinématographique a évolué, comment les styles commencent à s'affirmer, et donc ça commence à devenir véritablement un moyen de s'exprimer.
Formidable, bah écoute, quel joli programme. Effectivement, tu l'as dit, alors 1919, c'est l'année du traité de Versailles qui signe la paix entre l'Allemagne et les Alliés, et donc à l'issue de la Première Guerre mondiale. C'est aussi le début de la guerre d'indépendance turque menée par Mustafa Kemal Atatürk et de la réinstauration du Politburo par le Parti communiste russe, centralisant ainsi le pouvoir autour de 5 hommes, dont Lénine, Staline et Trotsky. En 1919, c'est également la période pendant laquelle Claude Monet réalise ses célèbres Nymphéas et où sort dans toutes les meilleures librairies le roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, lauréat du prix Goncourt. Mais 1919, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Et cette année-là, t'en as parlé, Sarah, le public américain va encore voir en salle les comédies de Charlie Chaplin, de Buster Keaton ou d'Harold Lloyd, et célèbre les productions ambitieuses de Cecil B. DeMille et les stars comme Gloria Swanson, Mary Pickford et Lon Chaney, tous en tête du box-office. Alors qu'Oscar Michaud signe le tout premier film afro-américain de l'histoire, de l'autre côté du monde, Lénine, lui, nationalise la production russe et crée la VGIK, qui est la première école de cinéma au monde. Au même moment, en France, le public va voir les films américains, certes, mais aussi ceux d'Abel Gance, de Marcel L'Herbier ou encore de Germaine Dulac. Mais cette année-là, à Hollywood, une petite révolution est en place qui vient bousculer le début de hiérarchie établie par les majors américains. En effet, 4 des plus grandes stars de l'époque ont décidé de faire sécession et de créer leur propre compagnie, la United Artists. Un studio qui existe toujours en 2022 et qui naît de la détermination d'acteurs et de réalisateurs qui vont être au cœur de notre premier thème. J'ai nommé D.W. Griffiths, Douglas Fairbanks, Mary Pickford et Charlie Chaplin. Ah, cette musique, c'est celle de Joe Arnel, et ce logo, c'est celui de la United Artists que j'évoquais juste avant. Et il s'est retrouvé, ce logo, devant de nombreux films comme Rocky 3, Rocky 4, War Games, Yentl, Police Fédérale Los Angeles, Dangereusement Vôtre et une multitude d'autres, puisque c'est donc celui de la United Artists qui est une société qui a aujourd'hui 103 ans, puisqu'elle a été créée le 5 février 1919 par quatre personnalités importantes. Charlie Chaplin, que tout le monde connaît, qui est un réalisateur, acteur, scénariste aux multiples talents. Tu l'as dit, D.W. Griffiths, qui est également un réalisateur star à l'époque. Mary Pickford, également actrice, productrice, une personne extrêmement importante également à cette époque-là. Et Douglas Fairbanks, qui est également un acteur. Donc c'est en 1919, quatre des plus grands noms du cinéma des années 1910 qui se réunissent pour former la United Artists, qui est donc cette société de distribution slash commercialisation de films encore donc active en 2022, puisque elle a récemment distribué Mourir peut attendre, le dernier James Bond, puisque la United Artists est aujourd'hui une filiale de la MGM. Pourquoi on en parle aujourd'hui dans cette émission-là? C'est que c'est quand même un événement à l'époque, c'est que effectivement c'est assez particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être le contexte de la création de United Artists, Sarah?
Oui, alors je vais revenir sur les quatre histoires personnelles des quatre fondateurs, des fondateurs, des vedettes. Chaplin, en fait, commence à jouer assez tôt. Il va très vite développer ses salaires de $100 la semaine jusqu'à $3000, jusqu'à même $10000 par semaine. Il a quand même une grande liberté, en fait. Il y a toujours une part, en fait, de ses recettes qui sont redistribuées chez les producteurs. Donc lui envisage de créer une société de production parce qu'il a les moyens de le faire. C'est pas exactement la même chose pour Griffiths, qui a déjà eu une précédente douloureuse expérience dans la production, puisqu'il a réalisé un des premiers grands longs métrages, qui est Birth of a Nation, donc Naissance d'une Nation, en 1915, qui encore aujourd'hui n'est pas visible dans des très bonnes copies parce que c'est un film polémique, très compliqué, puisque c'est un film qui fait l'apologie du Ku Klux Klan.
Qui a été pendant longtemps le film le plus lucratif de l'histoire du cinéma, jusqu'à jusqu'à Autant n'importe le vent, sans doute.
C'est ça, et puis c'est sûr. D'ailleurs, pour ramener le film à aujourd'hui, sachez que dans Black Klansman,
De Spike Lee
montre des personnes qui font partie du clan, enfin de regarder Naissance d'une Nation, ce qui est complètement absurde, parce que c'est un film qui est très, qui reste confidentiel, je pense que même des groupes racistes ne regarderaient pas aujourd'hui sans s'endormir. Donc toujours est-il que juste après, il va réaliser d'autres films et il va avoir une ambition surdimensionnée et il va s'endetter et se ruiner. À partir de ce moment-là, il devra toujours de l'argent à quelqu'un. Les producteurs ne lui font pas autant confiance que cela, puisqu'on sait qu'il a des ambitions démesurées.
Et du coup, Griffiths a cette frustration de... Oui. Bah déjà, il est endetté, et il a cette frustration de se dire, tout comme Chaplin, et comme Pickford et Fairbanks, ils ont cette frustration de se dire, on ne contrôle pas toute la chaîne de production de nos films, on est juste là à partie artistique, et dès qu'il s'agit de les distribuer, etc., bah, on perd de l'argent, on perd du contrôle, et on est frustré.
C'est ça, et puis c'est surtout qu'ils ont une prise de conscience, parce que en 1918 et 1919, ils vont faire don de leur image à l'État pour soutenir les troupes.
Pour la Première Guerre mondiale.
Voilà. Et donc, tout d'un coup, à la rencontre des troupes, ils vont réaliser à quel point leur image est importante. Et ils vont se dire, mais en fait, c'est notre image qui fait rouler la machine. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne s'allie pas pour créer une société de production?
Sachant qu'à l'époque, pour mettre un peu de contexte pour les auditeurs, donc on est en 1900, on est fin des années 10, Hollywood est déjà quand même assez bien développé. Il y a quand même déjà ce qu'on appelle les Big Five, c'est-à-dire que les majors américains, gros studios américains qui sont Paramount, Warner Bros, RKO, la 20th Century Fox et la MGM, qui sont déjà là et qui déjà établissent une sorte de hiérarchie à Hollywood. Donc, mine de rien, il y a déjà une structure qui est là, et le cinéma a beau n'avoir que 25 ans, à Hollywood, c'est déjà comme si tout était en place. Donc, il y a vraiment déjà quelque chose à bousculer de leur côté.
Quoi. Surtout que pour Mary Pickford ou pour d'autres acteurs de l'époque, quand on signe avec une major, on signe pour 3 films ou pour 6 films. Et donc, on est vraiment lié, point lié pour réaliser ces films, même si on n'a pas envie d'être dans les mêmes scénarios encore. Parce que le problème de Mary Pickford, par exemple, c'est qu'elle c'était la petite fiancée de l'Amérique. Et donc, en fait, même au-delà de la trentaine, elle jouait exactement le même type de rôle, qui était donc une pauvre orpheline, qui était souvent dans des mélodrames flamboyants des années 20. Et elle voulait jouer dans des rôles plus adultes, mais c'était pas possible. Et puis, le public ne suivait pas. D'accord. Donc, et ça aussi, c'est assez drôle de le remarquer. Il faut savoir que Chaplin, au tout début, il commence par à jouer un méchant. Et
Chaplin a commencé sa carrière à Hollywood en 1913 à peu près. Il est arrivé effectivement dans les années 10 à Hollywood. Et donc de 1913 à 1919, là, dont l'année qu'on parle, il faut imaginer que Chaplin a une ascension qui est phénoménale. Mmh. En l'espace de 2-3 ans, il passe d'inconnu à une star phénoménale avec des jouets à son effigie, à ramener énormément d'argent et de personnes dans les salles. Donc il faut imaginer qu'en voilà, en l'espace de 5 ans, son ascension est fulgurante.
Et Douglas Fairbanks, c'est aussi une des figures les plus lucratives de l'époque. C'est-à-dire qu'il est... c'est un cascadeur. Donc la plupart de ses films montrent des cabrioles, des sauts dans le vide. Et donc c'est celui...
C'est le Tom Cruise de l'époque.
Voilà, c'est ça. C'est qu'il réalise lui-même ses cascades. Et puis c'est surtout que lui, contrairement à Mary Pickford et à Griffiths, lui va continuer à triompher. En fait, dans Zorro, dans Le voleur de Bagdad, etc. Donc on sait que tous les films que Douglas Fairbanks fera seront des succès.
Sachant que Pickford et Fairbanks sont un couple.
Oui, ils sont un couple à l'époque.
Il y a ce côté couple
mythique qu'on va voir au cinéma, effectivement. Et donc, ils se disent, on va réaliser une société de production. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a quelque chose de symbolique plus qu'autre chose, puisque la plupart ont encore des contrats avec d'autres majors.
Oui.
Donc ils doivent continuer à faire des films pour d'autres personnes, alors même qu'ils ont leur propre société de production.
United Artists, c'est donc une société de distribution de films et non pas de production. Donc ils n'ont pas de studio voilà, où on peut mettre une caméra et filmer des choses. Ils sont juste là, on va dire, à récupérer les films quand ils sont déjà terminés. Ils les proposent à des tarifs préférentiels, avec des pourcentages un peu plus intéressants de distribution et avec notamment une licence artistique assurée pour les artistes, du coup, ce qui va intéresser les acteurs, les réalisateurs qui veulent avoir ce contrôle là donc ils ont un modèle économique qui est plus intéressant que les studios, et en même temps il y a cette liberté artistique.
C'est ça, c'est que pendant très longtemps on a associé United Artists avec l'idée d'un cinéma comme art. C'est un cachet artistique qui est présent, et c'est surtout pour distribuer des productions indépendantes. Après, je pense que ça a inspiré, peut-être pas des acteurs, mais plutôt des réalisateurs comme Coppola.
Oui, c'est arrivé, hein, effectivement. Voilà. On en reparlera, mais effectivement, il y a eu plus tard d'autres sociétés qui ont été créées par d'autres réalisateurs-acteurs. Mais voilà, donc en 1919, c'est...
C'est les premiers, et ça fait une sorte de coup de tonnerre. D'ailleurs, un des...
cette citation fameuse, oui, effectivement.
Donc, Richard A. Roland, président de Metro Pictures, dit « Les fous ont donc pris le contrôle de l'asile ». Donc, c'est aussi... Ça montre à quel point ça a fait du bruit à cette époque.
Il a conscience que c'est un asile, Hollywood.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est déjà une prise de conscience.
1919, c'est une année quand même qui est assez importante pour les quatre. Tu l'as dit, Chaplin, lui, ça fait 5-6 ans qu'il fait un peu les mêmes films, qu'il font un peu des formats un peu répétitifs. Il est frustré. D'ailleurs, 2 ans plus tard, en 1921, il fera The Kid, qui sera son premier long métrage. Mary Pickford, en 1919, elle est dans Daddy Long Legs, qui est le premier film au box-office américain. Douglas Fairbanks est dans le troisième ou le quatrième. Il est pas non plus là. Et Griffiths, tu l'as dit, il a ce passif de naissance d'une nation d'intolérance. Lui, il fait des films assez ambitieux. Et donc, en 1919, il fait Le Lys Brisé, Broken Blossom, qui est, donc, tu l'as dit, un film important, puisqu'il c'est le premier film avec un couple mixte.
Voilà.
Donc, avec une Anglaise et un Asiatique.
Et un Asiatique. Le Chinois n'est pas joué par un Chinois.
C'est un cas de yellow, ce qu'on appelle de yellow face.
Voilà.
Donc, un acteur européen qui est grimé en asiatique, donc
voilà, qui a scotché, qui a les yeux scotchés. Donc mais sauf que bizarrement dans le film l'Asie est montrée comme
plus noble
que l'Europe.
Ça raconte quoi, Le Lys Brisé, pour les gens qui nous écoutent?
Alors ça raconte l'histoire donc d'une jeune femme qui a un père boxeur qui la bat. Et qui, en errant dans la rue, va rencontrer donc un vendeur chinois qui va s'éprendre d'elle, mais platoniquement, puisque la plupart des films de Griffiths ne parlent pas du tout d'érotisme ou de... C'est toujours Lillian Gish joue toujours des femmes enfants, et donc il va essayer de la sauver des mains de son père. Sauf que son père va apprendre qu'elle a peut-être une liaison, même si elle n'est pas consommée, avec un chinois, et il va vouloir la tuer. D'accord. Et on a une scène finale qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans Shining, par exemple, avec un père qui tape à la hache une porte pour atteindre donc une femme. Donc
qui est dans un placard et oui, il défonce la porte à coups de hache, comme Shining.
Exactement. Et beaucoup de gens qui étaient présents sur le tournage entendaient les hurlements de Lillian Gish à ce moment-là, puisque Griffith était, il aimait beaucoup les personnalités éthérées, les actrices très fragiles, etc. Et il leur demandait vraiment de jouer le plus violemment possible. Il paraît même qu'il tirerait au pistolet pour les effrayer sur le tournage. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais toujours est-il que voilà, quelqu'un qui est à la fois capable de faire l'apologie du Ku Klux Klan et de dire que l'Asie est beaucoup plus développée psychologiquement, mentalement, par rapport...
Et moralement, puisque le film commence par, voilà, c'est ça. Par ce personnage-là qui est en Chine et qui se dit
il est
spirituel, voilà, il est religieux, il est spirituel, il a envie d'apporter cette dimension spirituelle au monde occidental. Et en fait, c'est aussi l'histoire de sa désillusion.
Il va être drogué comme les Occidentaux, il va connaître une forme de déchéance parce qu'il vient en Europe. Et c'est ça qui est formidable, c'est que d'habitude, quand même, c'est l'inverse qu'on nous montre. C'est comment les Occidents vont aller évangéliser et rendre moins sauvages les Africains ou les Asiatiques. Là, c'est l'inverse. C'est quelqu'un donc de très versatile, je trouve, David Warg Griffith, parce qu'il est capable de... On n'arrive pas à le situer exactement politiquement.
J'étais étonné de voir que Griffith, malgré effectivement ce double discours de se dire il est raciste, mais en fait, après, il a fait des films qui
le rachètent.
Il a quand même cette étiquette encore de raciste bien 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 collée.
Le problème, c'est un manque de nuances aujourd'hui. C'est que, enfin, moi, je le vois avec mes étudiants à chaque fois que je dois montrer un film polémique, je dois expliquer à chaque fois. Rappelez-vous du contexte, rappelez-vous de. Et puis, je suis désolée, mais on ne peut pas faire un cours d'histoire du cinéma sans parler de Griffith. Alors même qu'il est l'inventeur de nombreuses formes, en fait.
Réalisateur extrêmement important de l'histoire du cinéma.
Donc, par exemple, le montage alterné. Donc, tous ces films se terminent par ce qu'on appelle The Last Minute Rescue. Ils essayent à chaque fois, à la fin de ces films, il y a d'un côté des personnes qui essayent de rattraper la victime pour la sauver. Est-ce qu'on va la sauver à temps? C'est toujours la question. Et donc, ce montage alterné, même si on a dit que...
Nicole de Brighton.
Oui, voilà. On a... Oui, mais c'est un des premiers...
Je taquine.
À le mettre en scène de cette façon-là. Parce qu'il y a...
En plus, dans une dimension inédite. Parce que lui, c'est des films grands, parce que l'école de Brighton, c'est des films courts, voilà.
Et il est le premier, bizarrement, et l'histoire est faite de paradoxes, il est le premier à montrer un couple mixte à l'image. Alors aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles américaines, on veut enlever les noms de Griffith, de Lillian Gish, etc. Et je pense que c'est dommage, parce qu'on doit affronter.
Bien sûr.
On doit affronter son histoire et l'histoire des États-Unis se reflète.
Et donc on a parlé de Chaplin, on a parlé de Griffith et Mary Pickford. On l'a pas dit, mais c'est quand même l'une des premières grandes femmes productrices américaines. Alors avant, il y a eu Alice Guy Blaché qui est venue aux États-Unis, qui a eu sa société de production, etc., etc. Il y en a eu d'autres, bien sûr. Mais Mary Pickford, c'est l'une des premières femmes actrices à gagner plus d'un million, je crois, de dollars par an. Donc c'est une pierre importante, on va dire, dans l'histoire du cinéma et en plus dans l'histoire des femmes au cinéma en plus. Je trouve qu'on ne parle pas assez de Mary Pickford, qui, je trouve, est une personnalité formidable, à la carrière assez phénoménale.
Surtout que son jeu n'a pas pris une ride. Elle est un peu comme Lillian Gish, donc elle joue certes les jeunes premières et toujours à peu près le même type de rôle, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement émouvante. Et pour reparler de la place des femmes au cinéma, il faut savoir qu'avant que les studios arrivent, il y avait énormément de cinéastes femmes. Et même l'une des premières apparitions de Chaplin, c'était dans un film réalisé par une femme. Donc en fait, c'est quand... On s'est rendu compte que le cinéma n'était pas juste une invention foraine. Mais un lieu de pouvoir, que tout d'un coup, on a dit aux femmes, mettez-vous de côté, là, on n'a plus besoin de vous. Après, il est resté pas mal de monteuses, parce que ça ressemblait à la couture, etc. Mais il y a un très beau coffret DVD, il me semble, distribué par Lobster, sur les pionnières du cinéma, qui rappelle justement la place des femmes au tout début, avant que Hollywood ne devienne Hollywood. Donc je pense que c'est un peu rapide de dire que les femmes n'ont eu aucune place. Donc effectivement, là, le fait que dans une date aussi importante, une femme ait été présente, ça reflète aussi qu'il y a eu des femmes de pouvoir. Et beaucoup d'actrices en fait, beaucoup plus tard, comme Bette Davis ou Joan Crawford, avaient énormément de pouvoir. Donc, il est arrivé que des actrices aient plus de pouvoir qu'un réalisateur.
Pour revenir sur United Artists, on en a parlé, on a un peu évoqué, c'est une société qui a connu des hauts et des bas, qui a connu des faillites, qui a été rachetée, puis revendue, puis rachetée, puis maintenant, c'est une filiale de MGM, de distribution. Mais c'est vrai que sur le papier, comme ça, ça paraît être un rêve un petit peu fou. On l'a dit, c'est les fous qui prennent en contrôle le contrôle de l'asile. Est-ce que United Artists c'était une utopie finalement?
Oui, en un sens, parce que on a très vite vu que les fonds manquaient. Enfin, je crois que très vite, il y a eu des difficultés financières, mais c'est une utopie auquel on a envie de croire. En tout cas, si cette utopie avait été mise en place par d'autres personnes, peut-être qu'elle n'aurait pas du tout décollé. Alors que là, je pense que c'était nécessaire que ce soit des gens aussi influents qui puissent le faire. Parce qu'un acteur de seconde zone ou une actrice de seconde zone n'aurait jamais pu avoir les fonds nécessaires. Là, c'était des gens, que ce soit Mary Pickford ou Chaplin, ils gagnaient 10 000 dollars par semaine. Ouais. Donc, ils avaient des fonds nécessaires à cela. On peut se poser la question, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que des acteurs... Mais c'est vrai que très peu d'acteurs, soit ils deviennent producteurs d'un film. Alors si, il y a Brad Pitt qui produit...
Oui, il y a plein, il y en a quelques-uns, tu l'as dit, il y a même Eastwood avec Malpaso Productions, il y a Spielberg qui a fait Amblin d'une certaine manière. Donc il y a des exemples comme ça de gens qui ont, d'artistes, de réalisateurs, d'acteurs qui ont créé leur société de production. Ça existait, mais c'est vrai que quatre personnalités comme ça fortes qui se réunissent pour former un studio, surtout après un siècle effectivement où on voit que ben ils ont connu une faillite, ils ont vraiment fait une faillite en 80 avec la porte du paradis de Chimino qui a coûté énormément d'argent, couplé à plein de mauvaises décisions, ça a provoqué une faillite et du coup effectivement ils ont été rachetés par MGM et du coup en 2022, ils vont peut-être finir par être la possession d'Amazon.
Ah bon,
parce que Amazon va peut-être racheter MGM, c'est en discussion, mais du coup si Amazon rachète MGM, ils rachètent forcément United Artists et donc ce serait une nouvelle page de la longue histoire d'United Artists. Donc on l'a dit, c'était peut-être une utopie d'une certaine manière, mais j'ai quand même l'impression que tu vois là on a passé le générique d'ouverture au début de thème. Est-ce qu'il y a quand même un héritage United Artists, à ton avis?
Oui, je pense parce qu'ils ont vraiment été les premiers à réfléchir sur cette question du cinéma indépendant. Et donc je crois que ça a laissé une marque tout de même et que ça a inspiré d'autres réalisateurs. Donc je parlais de Coppola tout à l'heure. Donc il y a, ça crée des vocations en fait, je pense. Et il y a quand même un gage de qualité lorsqu'on va voir un film United Artists. Et La porte du paradis de Chimino, c'est un chef-d'œuvre. Alors certes, il les a coulés, mais ça reste un des plus beaux films de cette époque.
Et puis tous les James Bond des 70-80, c'était ça. Même Dr. No, c'était un film d'United Artists. Les Rocky, il y avait le logo United Artists au début. J'invite les auditeurs qui nous écoutent vraiment à regarder l'histoire d'United Artists. C'est assez drôle, cette utopie qui part de quatre profils particuliers pour mine de rien, traverser l'histoire du cinéma de manière assez atypique, c'est drôle. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur United Artists et peut-être sur ces quatre personnalités? On a parlé de beaucoup de choses.
D'essayer de voir aussi, il y a un très beau film avec Fairbanks qui est réalisé par Fleming en 1919 qui s'appelle When the Clouds Roll By, ou en français c'est Cauchemar et Superstition. Et qui montre à quel point Fairbanks est capable de sauter dans les airs. Alors,
c'est le film où il marche sur les,
oui,
les murs.
Oui, il marche sur les murs, et puis c'est surtout que ça... Moi, je trouve que c'est un peu de Truman Show, mais en 1919, puisque c'est l'histoire d'un scientifique qui décide de jouer avec la vie d'un homme en lui faisant croire à des superstitions. Donc à chaque fois qu'il croise un chat noir, à chaque fois qu'il brise un miroir, il pense qu'il va y avoir énormément d'horreurs qui vont suivre. Et donc, en fait, il est observé à chaque fois qu'il fait quelque chose, et on le voit tout de suite essayer de... Enfin, on le voit sortir par toutes les fenêtres de tous les immeubles du film. On le voit sauter des barrières. Le film commence par un cauchemar assez intéressant où il mange des oignons et des choses indigestes, et on voit dans son estomac des espèces de personnages qui sont déguisés en oignons, en tartes, etc., et qui essayent de l'attaquer. Donc je trouve que c'est très drôle comme scène, et c'est presque surréaliste en fait, parce qu'on est en 1919. Moi je trouve que ça annonce beaucoup de films qui vont jouer sur le rêve de Buñuel ou d'autres. Et tout cela est extrêmement divertissant, malgré le fait que ce soit donc en 1919, on le voit vraiment faire les cascades les plus belles possibles.
Tu pourras rappeler le nom du film ?
Cauchemar et superstition de Victor Fleming.
Ouais.
Et en anglais, c'est When the Clouds Roll By.
Si vous êtes curieux, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tous les films dont on a parlé là,
on peut les trouver assez facilement,
parce que 1919, c'est il y a très très loin, donc ils sont tombés dans le domaine public pour la grande majorité.
Pour
je
ne
veux pas dire
oui.
de bêtises, mais pour la grande majorité, ils sont dans le domaine public, donc vous pouvez les regarder gratuitement, véritablement. Mmh. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de notre émission sur 1919. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, on est toujours avec Sarah Ohana, et on est parti sans plus attendre vers le second thème de l'émission. Fabuleuse cette musique, elle est inspirante, elle raconte beaucoup de choses. Cette musique, c'est le thème de la marche des morts du film J'accuse d'Abel Gance, qui va être au cœur de notre second thème de l'émission. Cette musique, c'est celle de Robert Israel dans la version de 2008 du film. J'accuse d'Abel Gance, c'est un film qui raconte l'histoire de deux hommes, Jean et François, qui aiment la même femme, Edith, et qui vont apprendre à se connaître pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, et qui vont finalement devenir amis et unis comme ça par ce conflit pas comme les autres. Alors, dans ce second thème avec Sarah, on va bien sûr discuter de J'accuse, on va bien sûr aussi discuter d'Abel Gance, qui est un nom comme ça qui, pour les cinéphiles, évoque peut-être quelque chose, Napoléon, La Roue, des grands films assez impressionnants, mais qui est peut-être aussi un petit peu méconnu. En quelques mots, toi, comment est-ce que tu définirais son cinéma pour quelqu'un qui ne le connaîtrait pas du tout.
Il faut savoir qu'Abel Gance, d'abord, il s'intéressait au théâtre. En fait, il était acteur, tout comme Griffith. Griffith aussi était acteur avant d'être cinéaste. Ils se sont intéressés au cinéma pour des raisons financières. Donc, Gance était un miséreux. Donc, il disait lui-même, lorsqu'il écrivait des pièces ou lorsqu'il écrivait des scénarios, qu'il n'avait pas les moyens, enfin, qu'il n'avait même pas les moyens de manger, mais il se dédiait à cet art-là. Mmh. Et ce qui s'est passé au moment où la guerre intervient et un peu avant, c'est qu'il va s'intéresser au cinéma à ce moment-là et faire des courts-métrages. Et avant que la guerre intervienne, il avait même proposé une pièce de théâtre à Sarah Bernhardt qui avait accepté de la jouer, mais à cause de tous les événements,
oui.
Voilà, ça n'a pas été possible. C'est en découvrant quelques films qui l'ont intéressé, notamment de Sénette ou d'autres cinéastes, qui dit dans ses écrits « Ah, je crois que le cinéma, finalement, c'est intéressant et on peut faire des choses assez belles ». Donc, il faut savoir qu'au début, il a un mauvais a priori par rapport au cinéma.
Ça fait 20 ans que le cinéma existe, on ne sait pas encore ce que
oui,
c'est.
Voilà.
C'est comme, j'imagine, je dresse un espèce de parallèle avec Internet, mais ça peut être un peu la même chose, de ce côté de qu'est-ce que c'est Internet, ou le jeu vidéo, c'est un peu la même chose, j'imagine, en termes de mise en perspective.
Voilà, donc, comme souvent, en fait, les personnes qui ne connaissent pas le cinéma vont le réinventer, ou proposer des choses assez impressionnantes. Donc, dans La folie du docteur Tube, qui est un de ses courts-métrages de 1915, il me semble, il va faire des déformations un peu surréalistes, avec il va aussi proposer très vite des split screen. Il va proposer une invention qui est restée donc en 1927, qui s'appelle la polyvision, donc le triple écran. Lui aussi, comme Griffith, est quelqu'un qui a fini dans la misère et qui le défaut d'être en avance sur son temps. Gance crée la polyvision, donc le triple écran. À l'époque, tout le monde le croit fou, tout le monde dit que c'est impossible de le montrer puisqu'il y a très peu de salles qui ont trois écrans disponibles. Fin des années 50, 60, voilà, cinémascope, et il va y avoir ce qu'on appelle une invention bon, qui n'a pas duré très longtemps, mais et qui s'appelle le cinérama. Et du coup, de son vivant, il a vu ces inventions qui n'étaient plus brevetées, volées par des Américains, et sans qu'il ne puisse toucher un centime. Sur
et maintenant, on a l'IMAX, et
voilà,
c'est peut-être un petit peu grâce à Abel Gance.
Exactement, et donc c'est vrai que c'est un destin un peu tragique, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert Abel Gance grâce à des Anglais et non à des Français. Donc c'est grâce à Kevin Brownlow et un de ses disciples qui s'appelle Paul Cuff, qui sont des spécialistes d'Abel Gance. Kevin Brownlow et Paul Cuff ont écrit des ouvrages sur Gance, Et il faut savoir que Kevin Brownlow a été un chercheur qui a été le premier à aller à la Cinémathèque française pour chercher les bobines complètement pourries, il faut le dire, de Napoléon, pour essayer de faire une version de 5h30, bien avant que la Cinémathèque elle-même s'intéresse à cela. Mais pendant très longtemps, alors même qu'il est un de nos plus grands cinéastes, il a été mal connu, enfin presque invisible. Ouais. Son œuvre a été invisible pendant très longtemps.
Un réalisateur visionnaire, novateur, en tout cas, qui va triturer la matière cinématographique, qui va se dire j'ai une image, je vais la casser en deux, en trois, en quatre, je vais voir ce que je peux faire, je vais mettre la caméra. On en avait parlé avec Renan Crowe pour l'année 1927 dans Napoléon, où il met la caméra sur un cheval, il met la caméra sur un bateau, il met la caméra partout pour voir ce que ça fait.
Sur un chariot.
Donc, sur un chariot, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en 1919, quand il fait J'accuse, il a déjà réalisé plus de 20 films, il connaît déjà assez sa matière, et comme tu le dis, il a cette force de se dire il faut que je fasse des films qui sortent de l'aspect théâtral qui est très courant à l'époque. C'est-à-dire que le film reste encore, surtout dans le cinéma français, encore des scènes
très
de
proche,
théâtre assez proches, assez littéraires, etc., etc. Et le cinéma en tant que tel, en tout cas en France, n'a pas encore de forme propre, il n'y a pas encore un art cinématographique. Et lui, on voit que c'est quelqu'un, avec d'autres, avec Dulac, avec L'Herbier, etc., etc., à dire il faut que le cinéma trouve sa langue à lui.
Ça.
Il est là pour essayer de la trouver, de la façonner.
D'inventer des formes, et il a des idées aussi scénaristiques. Alors, moi, je trouve qu'il est à la fois du côté du mélodrame, J'accuse, et du côté d'un film fantastique. Et donc, Gans a cette idée folle de... faire un film quasi fantastique puisque il est parti du principe que la guerre est complètement illogique. Il faut savoir qu'il a perdu 10 amis proches à la guerre. D'ailleurs, dans le film sont insérées des lettres de ses amis, des véritables
lettres de soldats,
de cette époque. Et donc il imagine cette chose extraordinaire qui est que les soldats reviennent comme des morts vivants, donc à titre d'esprit ou de spectre, et ils demandent pourquoi sommes-nous morts ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Donc, effectivement, à la fin de J'accuse, on a un split screen, ou un écran fractionné en français, avec donc une sorte de manifestation pour la victoire à l'Arc de Triomphe.
Un défilé de la Première Guerre mondiale.
Et de l'autre côté, on a tous les morts qui reviennent, enfin qui se lèvent du
champ de bataille,
du champ de bataille et qui viennent réclamer leur dû auprès des vivants.
Image saisissante.
Voilà, c'est très saisissant. Et c'est d'ailleurs pour ça que une personne avait dit à cette époque si on avait vu ce film avant la Première Guerre mondiale, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Première Guerre mondiale. Donc à chaque fois, en fait, il veut montrer qu'on meurt pour rien. On est obligé d'aller au front et on meurt pour rien. Parce qu'il faut savoir que Gans lui-même devait aller au front, mais il a été jugé inapte. Oui. Donc peut-être qu'il y a une culpabilité aussi qui vient de ça, qui émane du fait qu'il ne peut pas aller se battre lui-même.
Et c'est vrai que c'est saisissant parce que tu l'as dit, on est en 1919, la guerre se termine le 11 novembre 1918. Et il faut quand même rappeler que c'est un film qui a été réalisé, tourné pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que il a même été tourné lors d'une bataille en septembre-octobre. Il allait sur le front avec la caméra. Et donc, dans le film J'accuse, vous avez donc les lettres de soldats qui ont été envoyées l'année d'avant. Vous avez des images qui ont été tournées directement sur le front de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est quand même un processus saisissant de... il va chercher ce cinéma vrai. En soi, J'accuse est un film un peu fou.
Mais à chaque fois, il a des scénarios qui dépassent totalement l'entendement et qui ne sortent que de son imagination. Donc, que ce soit du côté de Griffith ou de Gans, on est du côté de personnes qui sont des inventeurs de formes et qui essayent à chaque fois de dépasser ce qui a déjà été montré et la façon dont ça a été montré. Il y a une scène que je trouve assez frappante où en fait Edith a disparu, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Elle s'est abritée dans une sorte de grange et des soldats allemands vont la violer. Et en fait, la façon dont c'est montré, c'est quasiment du caligarisme. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez Edith toute petite dans le plan et des ombres de soldats allemands qui viennent s'emparer d'elle. Et ils ne s'emparent pas d'elle d'un point de vue sexuel, on ne voit rien, hein, mais
les ombres s'abattent sur elle véritablement.
Il y a une main qui vient prendre Edith comme si ça ressemble presque à du dessin animé ou à du caligarisme.
Le caligarisme, donc, c'est l'impressionnisme. L'expressionnisme allemand qui arrivera l'année suivante, en 1920, avec le cabinet Docteur Caligari.
Et c'est pour ça que je trouve que c'est saisissant de voir déjà ce type d'image avec des ombres portées qui ont leur propre vie, parce que en fait, il a aussi, en un sens, annoncé cela. C'est à la fois un mélodrame fantastique qui, par son imagerie, montre ce qui va se passer par la suite chez les avant-gardes. Mmh. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un film charnière là-dessus.
En parlant, on a l'impression qu'il aurait trouvé déjà que ce langage cinématographique qu'il a cherché pendant dans les années 1910, il est déjà là. Et d'un autre côté, il y a ce côté documentaire où il va sur le front, il va mettre sa caméra, il transmet ses lettres de soldats qui sont des vraies lettres de soldats, etc. etc. Donc il y a cette limite de la fiction qui est un petit peu brouillée. Et moi, j'ai été marqué par un carton du film qui dit quelque chose qui est assez saisissant. Et tu as l'impression qu'Abel Gance se rend compte lui-même des limites du cinéma de cette manière. Ce carton, qu'on est dans une scène où un soldat raconte ce qui s'est passé effectivement au front. Et le carton marque. Et le visionnaire leur dit encore bien des choses profondes et douloureuses qui ne doivent pas sortir de l'enfer, de la boue, par l'image, parce que les yeux sont encore trop loin du cœur pour bien comprendre. Donc il est en train de dire, en vrai... je ne peux pas vous montrer ça parce que le cinéma n'est pas capable de montrer ça, parce qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à la réalité, qu'à la boue, qu'à la guerre. Et donc il est déjà en train de dire le cinéma a ses limites. On manque de recul, mine de rien.
Bah, c'est ça, c'est qu'il y a une forme de pudeur aussi chez lui, donc il cherche pas à montrer. Alors il y a quand même une personne qui reçoit un obus ou je sais plus. Oui. Enfin, il y a quand même des scènes plus ou moins violentes, mais il y a une pudeur chez Gans qui fait qu'il ne veut pas sombrer vraiment dans une forme de voyeurisme. Surtout que il faut rappeler que la population de l'époque vient de sortir de la guerre, donc,
elle
est pas très réceptive peut-être à l'idée de revoir à l'image, quelque chose dont ils sont à peine sortis. Donc, ils ne cherchent pas à créer un traumatisme, mais bien à montrer à quel point la guerre est illogique et c'est un gage de pacifisme. Il veut montrer que c'est une absurdité, en fait, de continuer à se battre.
Quand on a construit cette émission-là, tu m'as dit « J'accuse est un film trop particulier ». Trop unique pour qu'on en discute avec d'autres films. Il sort un peu du lot, il a vraiment une identité particulière. Et moi, j'avais une question très simple. Est-ce que J'accuse et la naissance d'un certain film de guerre, est-ce que c'est la naissance du film de guerre, tout simplement? Parce que mine de rien, on a tendance à l'oublier, mais la Première Guerre mondiale est le premier conflit cinématographisé de l'histoire du cinéma. Parce que mine de rien, voilà, c'est la poussée de la Première Guerre dans l'histoire du cinéma. Et on peut se poser la question de ce que J'accuse a inventé d'une certaine manière un certain film de guerre.
Alors, j'y avais pas pensé avant, mais j'ai l'impression qu'il y a dans son côté mystique et dans son côté romantique, puisqu'on voit la guerre à travers les yeux d'un idéaliste, ça annonce la ligne rouge de Mali, qui a quelque chose de cet ordre-là, puisque on a aussi une personne qui est au front et qui tout d'un coup se rend compte de l'absurdité de la guerre et veut écrire des poèmes à la place ou être avec la population. Donc il y a cette idée de, au début on va voir un film de guerre et en fait ça se transforme totalement en récit initiatique qui nous apprend une forme d'humanité. Donc Malick a essayé de faire ça. Et je pense qu'il a réussi. Hein. Je pense que les deux films, en un sens, sont des odes au pacifisme. Et tous les films de guerre ne sont pas du même ordre. On va aussi voir des films de guerre pour un petit frisson.
Bien sûr. C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de combats. C'est beaucoup de lyrisme, c'est beaucoup d'introspection, des choses comme ça. Il y a du conflit, il y a des combats, mais c'est quand même relativement peu sur 3 heures.
Sur 3 heures, on a davantage l'aspect humain, donc comment survivre à un viol qui devient un enfant.
Enfin,
on voit aussi, c'est un des thèmes, hélas, avec Broken Blossom, c'est une femme battue. Mais c'est vrai que oui, c'est un type de film de guerre qui est très différent. Et donc, j'invite les auditeurs à voir Verdun Vision d'Histoire en parallèle pour voir comment, pour le coup, on peut faire un film purement réaliste sur Verdun. Où en fait on a beaucoup plus d'images d'archives, on a beaucoup plus de scènes de bataille et on a aussi un idéaliste qui est joué par Antonin Artaud qui joue donc dans Verdun.
Rappelle Verdun Vision du Soir du coup
de Poirier, Léon Poirier, 1928.
Si les gens qui sont effectivement intéressés, ils peuvent voir comme ça avoir à 10 ans d'écart 2 visions particulières d'un même conflit, donc ça c'est intéressant.
C'est ça.
Une sans recul et une avec du recul, du coup ce qui peut également aussi changer pas mal de choses. Tu voulais citer quelque chose en particulier? Sophie.
En fait, c'était certains des poèmes de Jean Diaz.
Le personnage principal de
Pour
Jacques
montrer Lise. À quel point le film est lyrique, justement. Je m'appelais Jean Diaz, mais j'ai changé de muse. Mon doux nom de jadis est devenu J'accuse. Et je t'accuse, toi, soleil, d'avoir illuminé l'effroyable épopée. Muet, placide, sans dégoût, comme une face horrible à la langue coupée, à ton balcon d'azur, sadiquement crispé, d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc là aussi, on voit à quel point le fait de voir la nature qui est indifférente en fait au conflit humain est cruel en un sens. Et on voit aussi cette idée de voir comme une souffrance et donc de ne pas tout montrer. Parce que ça devient impudique en fait.
Un film qui est plus lyrique et poétique que son thème ne laisse suggérer. Voici qui conclut parfaitement ce second thème de notre émission sur 1919. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission. Le thème du film La Loi des Montagnes, film d'Eric von Stroheim, qui va être notamment, parmi d'autres, au cœur de notre troisième et dernier thème sur 1919. Alors c'est vrai que quand on a préparé l'émission, Sarah, tu m'as dit j'ai envie de parler du cinéma d'Eric von Stroheim, j'ai envie de parler notamment de ce film La Loi des Montagnes, Blind Husbands.
Oui. J'avais oublié que c'était ça le titre français.
Effectivement. Simplement, je vais commencer tout simplement. Pourquoi tu voulais parler de ce film en particulier et de Eric von Stroheim?
Parce que on associe le cinéma allemand à l'expressionnisme et donc au cabinet du docteur Caligari. Et en fait, c'est vrai que von Stroheim, sa particularité, c'est de parler d'histoire de mœurs, mais dans un contexte beaucoup plus réaliste où on a des scènes en extérieur, ce qui n'est pas une particularité du cinéma allemand de l'époque. Mais peut-être qu'on devrait, en tout cas en quelques mots, dire ce qui se passe en Allemagne. Enfin, je voulais rappeler.
Ah ben je t'en prie.
En 1918, on a la première république de Weimar qui est instaurée en Allemagne. Et donc en 1918, on va avoir la fin de la censure. En fait, la censure de l'Empire, et c'est pour cela aussi que de 1918 à 1933, on a les années les plus importantes du cinéma allemand et un moment vraiment un âge d'or en fait du cinéma allemand. Ce qui est particulier avec l'Allemagne, c'est qu'en fait comme ils se sentent exclus du monde après la Première Guerre mondiale, la seule manière qu'ils ont de se réapproprier le monde et de briller auprès des autres pays, c'est par le cinéma.
Ah, c'est intéressant ça.
Enfin, c'est ce que dit Bernard Eisenschütz dans son ouvrage qui s'appelle Le cinéma allemand. Et donc, il dit cette phrase que je trouve très belle. Pendant cette brève période, donc de 1918 à 1933, le cinéma va être la meilleure expression de l'état du pays et de son imaginaire. Et il rappelle que ça sera le cas avant qu'un régime fondé sur la haine et le mépris ne prétende le faire. Donc c'est vraiment important de rappeler...
C'est fort comme situation.
Voilà, c'est très fort de se dire ça, de se dire que finalement c'est une nation qui est humiliée, mais qui est uniquement valorisée par le cinéma. Étant donné que la censure se termine à cette époque-là, en 1918-1919, on a énormément de films avec des thèmes qui ne sont pas abordés ailleurs.
Et une ouverture. C'est un peu l'équivalent du pré-code américain.
C'est exactement ça. Et même, ils vont un peu plus loin. Ils vont parler de l'homosexualité, des maladies vénériennes. Ils vont parler de mœurs, d'hystérie, de choses qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Et du coup, il y a tout d'un coup des personnages féminins assez exceptionnels, une forme de cruauté qu'on retrouve chez von Stroheim avec von Stroheim se crée lui-même un personnage extrêmement antipathique.
Du coup, Eric von Stroheim va se spécialiser dans ce type de production-là. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Eric von Stroheim, parce que c'est vrai que dit comme ça, Eric von Stroheim, ça peut faire peur un petit peu, parce que ça peut être un nom qu'on ne connaît pas, etc., etc. Par contre, c'est une personnalité extrêmement importante du cinéma. Qui est Eric von Stroheim rapidement?
C'est quelqu'un qui lui aussi, comme Abel Gance et comme Griffith, va perdre énormément d'argent pour
danser. Décidément, c'est le fil rouge de cette émission, c'est les gens qui perdent de la thune.
C'est voilà. c'est les personnes qui ont de l'ambition et qui donc ne réussissent pas à s'en sortir forcément. Donc lui aussi, il va avoir un grand film qui va le perdre, qui s'appelle Les Rapaces. Moi, je parle un peu du début de sa carrière uniquement. Et donc, dans Blind Husband, j'ai oublié le titre.
La loi des montagnes. Alors, sachant que c'est un réalisateur qui est né à Vienne, oui. Donc qui est autrichien. Oui. Donc Empire austro-hongrois, oui, voilà. On en a parlé. Et ce film-là, il le fait aux États-Unis.
Oui, c'est ce qui est très très étrange. Donc comme je le disais, en fait, il va y avoir très tôt dans le cinéma allemand plusieurs cinéastes qui vont, peut-être parce que le réel est trop cruel après la guerre, etc., ils vont se réfugier, enfin pas se réfugier, mais ils vont en tout cas développer une esthétique qui fait fusionner le cinéma avec les arts plastiques, avec la peinture particulièrement, d'où l'influence de l'expressionnisme donc en peinture et en littérature. Et donc on va avoir énormément de déformations de l'espace, on va avoir beaucoup d'ombres portées, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir des personnages qui sont issus d'un folklore germanique particulier.
Mmh. Donc, une dimension fantastique, merveilleuse, surnaturelle.
Voilà.
Mais du coup, Von Stroheim est complètement pas dans ce...
Voilà, c'est ça. Pour ça que je voulais
parler de Von Stroheim. Ça, t'as bien fait de définir, effectivement.
C'est que, en fait, lui s'intéresse à la cruauté humaine, donc il n'y a pas de happy end, il n'y a pas de morale, contrairement à Gans par exemple qu'on a abordé précédemment. Il va s'intéresser à des personnages aigris qui cherchent à faire le mal ou à provoquer des accidents. Donc dans Blind Husbands par exemple, on a...
Ça raconte quoi, la loi du monde?
C'est encore un triangle amoureux. Et dans ce triangle amoureux, en fait, on est à la montagne, donc les accidents de ski sont très, sont possibles.
Surtout dans les années 1910.
Voilà, c'est ça. Et donc, il va essayer de provoquer la mort de son rival grâce à la montagne. Enfin, donc il y a quelque chose de sadique en fait chez lui la plupart du temps.
Et c'est un film de mœurs.
Voilà, c'est un film de mœurs.
Comment lui, en tant que lui qui a cette figure, effectivement, il joue ce Prussien, oui. Avec le monocle, etc., oui. etc. D'ailleurs, qui était un personnage assez récurrent de sa filmographie, où même parfois les films faisaient de la pub dessus, oui. En disant vous allez adorer le détester.
C'est ça.
C'est ce personnage antipathique qui allait de film en film, un peu comme le Charlot de Chaplin. Et du coup, c'était ce rôle de Prussien. Et dans ce film, La Loi des Montagnes, il y a ce couple qui ne va pas bien, en tout cas la femme est mal aimée par son mari, et lui il va essayer de séduire la femme et provoquer l'adultère, et du coup, comme tu l'as dit, effectivement, tuer le mari pour récupérer la femme.
Donc
c'est un film de mœurs qui n'est pas très
joyeux,
mais il adorait ça, Von Stroheim.
Voilà, il adorait ça, et parce que finalement on a abordé tout à l'heure Mary Pickford, on a abordé Chaplin, le personnage de l'orpheline de Mary Pickford ou le personnage de Charlot de Chaplin, ce sont des personnages qu'on aime beaucoup.
S'identifie à lui. Voilà, Von Stroheim, pas du tout. C'est quelqu'un d'horrible, c'est un personnage horrible.
Il est prussien, il est aristocrate, il a un jeu aussi particulier parce qu'il n'est pas très expressif non plus. Et il a une présence aussi. Il a une présence. En tout cas, je trouve intéressant de rappeler que dans le cinéma allemand de 1918-1919, il y a aussi cette figure-là dont on ne parle pas beaucoup.
Tu l'as dit, le cinéma allemand, en tout cas post-Première Guerre mondiale, on dit cinéma allemand, mais Von Stroheim est autrichien. Lang est également, Fritz Lang, M. le Maudit, Metropolis, etc., etc., est un cinéaste qui est né en Autriche, et qui du coup est affilié naturellement au cinéma allemand, mais parce que simplement le cinéma allemand à l'époque est une industrie
très florissante.
Extrêmement florissante. Voilà, c'est pour ça qu'on labellise ça. Il y aura également Ernst Lubitsch dans cette même génération-là, bien sûr.
Et Lubitsch, pour le coup, Lubitsch est très connu à cette époque parce qu'il fait énormément de succès pour ses comédies. Et c'est justement un des films que j'ai trouvé assez étonnant en 1919, c'est La princesse aux huîtres, qui est très drôle parce que c'est l'histoire d'une femme qui est la fille d'un magnat qui apprend qu'une autre fille, fille d'eux, vient d'épouser un prince, et donc elle casse tout dans sa maison.
C'est un détournement de conte de fées.
Voilà, c'est ça, et elle dit à son père, achète-moi un prince. Et donc,
on retrouve déjà l'impertinence et la malice de Lubitsch de casser comme ça un petit peu les formats et les thèmes.
À cette époque, juste avant le caligarisme, juste avant donc le film de Robert Wiene, qui date de 1920 et qui est tourné donc en 1919, eh bien, il y a énormément de comédies de mœurs qui font le miel en fait des sociétés de production allemandes et qui se vendent extrêmement bien
à l'étranger. Et qui remettent un peu de vie peut-être dans Europe pays. Effectivement, à la suite de la Première Guerre mondiale. J'allais te demander, effectivement, on a Von Stroheim, on a Lou Beach, on a évoqué Fritz Lang, mais j'en parlerai dans mes recommandations de fin d'émission. J'allais te demander quel était le dénominateur commun de toute cette génération de cinéastes qui, mine de rien, va, après, dans les années 20 et les années 30, imprégner le cinéma mondial, puisque, effectivement, dans les années 20, dans les années 30, on va avoir des grands films de Fritz Lang, on va avoir les grandes comédies de Lou Beach. Qu'est-ce que partage leur cinéma ?
Ça dépend. C'est-à-dire que Wiene, pour moi, je le sépare vraiment de tous les autres parce qu'il a fait ce film totalement bizarre qui est Le cabinet du docteur Caligari, qui est un film uniquement en décor peint. Après, moi, c'est ce que je trouve exceptionnel avec ces cinéastes-là, c'est qu'ils se réinventent et c'est surtout que c'est grâce à eux qu'il y a la création du film noir, en fait, aux États-Unis. C'est-à-dire que aux États-Unis, dans les années 40, donc en 41 à peu près, on commence à voir la naissance d'un nouveau genre qui est le film noir. Et le film noir reprend la plupart des lumières que l'on voit chez Murnau et Lang un peu avant. Donc tu verrais
une espèce de point commun esthétique, de thématique.
Voilà, c'est ça.
Peut-être que le dénominateur commun, t'as ce début de liberté folle, qui est effectivement que de 18 à 33, avec l'arrivée après du nazisme, il y a quand même cette fenêtre de 15 ans où le cinéma allemand, avec cette génération de cinéastes, Von Stroheim qui effectivement fait des films de mœurs complètement déconnectés de l'expressionnisme allemand, avec Lang, avec Lou Beach, etc. Il y a, comme tu l'as dit très bien, peut-être cet appel d'air. Voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de l'émission. On ne se quitte pas tout à fait, hein, vous avez l'habitude. On va parler maintenant de petites recommandations de films à voir, de films qu'on aimerait mettre en avant dans cette année 1919. Alors voilà, comme d'habitude, bien sûr, on finit l'émission avec nos coups de cœur, en tout cas des films qu'on n'a pas pu évoquer dans l'émission et qu'on a envie juste de conseiller. Est-ce que toi, Sarah, tu aurais un film que tu aimerais évoquer, que tu aimerais conseiller aux gens qui nous écoutent? Tu m'avais parlé d'un film de Germaine Dulac également.
Oui, La Cigarette. Alors, La Cigarette, alors, il faut savoir que Germaine Dulac, donc, elle est à la fois réalisatrice et théoricienne. Et
française.
Et en fait, elle écrit des textes et elle a notamment écrit un texte où elle explique qu'en fait, elle en a marre de voir que le cinéma s'inspire de la littérature et s'inspire des autres arts. Mmh. Et donc, elle essaye, comme Abel Gance d'ailleurs, de trouver son propre langage, et elle va, avec les surréalistes un peu plus tard, et s'intéresser à tout ce qui est non-narratif, en fait. Donc, La Cigarette n'en est pas encore là.
Ça raconte quoi, La Cigarette ?
Il me semble que c'est aussi une histoire d'adultère.
Oui, en fait, c'est l'histoire de monsieur et madame Guérande, qui sont du coup un couple qui s'aiment. Alors, monsieur Guérande a 50 ans, et madame Guérande en a 25. Donc
comme d'habitude.
Il y a un décalage, mais du coup, c'est aussi le cœur de l'histoire, puisque Guérande, lui, il est trop vieux et il voit sa jeune épouse vivre sa vie de vingtaine, c'est-à-dire s'amuser, sortir, alors que lui, il est pris dans son travail et tout ça. Et du coup, il se rend compte de cette différence d'âge et du coup, pour la libérer, comme il voit qu'il a l'impression que cet amour n'est pas réciproque et qu'elle est prise dans ce mariage piégé, et que lui aussi, il va décider de se suicider, mais en laissant le hasard décider.
Oui,
et il va s'inspirer d'une légende égyptienne pour, en fait, il va empoisonner une de ses cigarettes, il va la mettre dans son paquet de cigarettes sur son bureau, et il va fumer les cigarettes, mais sans savoir laquelle va le tuer finalement. Donc il y a ce suspense tout au fur et à mesure du film, avec cette histoire quand même de couple et de mœurs, encore une fois, on revient sur cette question-là.
Elle a commencé à aborder des questions d'un point de vue... Alors, je ne sais pas si c'est un point de vue féminin ou pas, mais tout d'un coup, elle parle d'une question qui n'était pas beaucoup abordée. Alors, il y a aussi cette idée peut-être un peu cynique du suicide, mais
D'ailleurs, la toute fin est assez dingue, parce que... on ne va pas spoiler, mais du coup, voilà, toute fin est assez dingue, effectivement, et peut-être assez cynique sur le mariage, tout simplement.
C'est ça.
Ce qui est drôle quand on sait que Germaine Dulac... la même année à peu près, ou à une année près, divorce de l'homme avec qui elle est pour se mettre avec une femme.
C'est ça. Donc
ce qui est effectivement aussi...
Donc je pense que ça transparaît effectivement sa vision du mariage qui est peut-être... Qui est plus réaliste que celle qu'on nous vend 10 ans plus tard, en tout cas dans certains films hollywoodiens.
Et La cigarette de Germaine Dulac. Voilà. Avant de vous laisser, moi j'aimerais juste vous conseiller de mon côté, ma petite recommandation sera Les araignées de Fritz Lang, qui est un film, donc le premier film, l'un des premiers films de Fritz Lang, puisqu'il en réalisera quelques-uns en 1919. Mais il fait partie effectivement de ses premiers films de cette grande carrière de l'homme qui derrière aime le maudit, le docteur Mabuse, Metropolis, etc., etc. Et Les araignées, c'est le premier film, on va dire, d'une série, puisque à la base, ça devait être 4 films, un peu comme une mini-série, comme un épisode de série. Et il y a notamment le film Les araignées, Le lac d'or, qui est donc le début de l'histoire et qui est l'histoire d'un explorateur au Pérou qui a trouvé effectivement une cité cachée avec un trésor. Il envoie un mot, ce mot-là est récupéré en Europe, trouvé par un explorateur. Cet explorateur va être trompé par une société secrète qui également veut mettre la main sur le magot. Bref, tout ça c'est un récit d'aventure avec les Mayas, le Pérou, une société secrète, beaucoup de mystères, et c'est fascinant et c'est passionnant et c'est très divertissant à regarder malgré l'année, malgré 1919. Il y a beaucoup d'idées visuelles, comme tu l'as dit, ça a été tourné à Babelsberg, ça a été tourné dans les studios allemands, et il y a beaucoup d'ambitions visuelles, t'as des très très beaux décors, bref, donc c'est assez fun, et c'est aussi disponible en DVD Blu-ray, Les araignées de Fritz Lang. Alors Fritz Lang a juste réalisé le premier épisode et le deuxième, il devait en réaliser 4, mais au bout de 2 la production a dit on va arrêter, voilà, donc on a juste la moitié de l'histoire, donc les deux premières heures et demie. Mais en tout cas, Les araignées, le lac d'or est un très bon film à voir et à découvrir dans cette année 1919, et l'un des premiers films de Fritz Lang, donc le grand Fritz Lang. Ce sera ma petite recommandation personnelle. Voilà qui conclut parfaitement cette émission d'Année Lumière consacrée à l'année 1919. J'aimerais avant tout remercier mon invité, Sarah Ohana. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton cinéma. En tout cas, c'était très cool et je pense que très passionnant pour les gens qui nous ont écoutés. On a quand même parlé d'énormément de choses.
Merci à toi d'avoir accepté pour cette invitation.
Merci beaucoup. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager l'épisode et suivre le compte Twitter de l'émission pour les dernières infos. Et je rappelle que si vous voulez soutenir Année Lumière, vous pouvez le faire via le site Utip, U-T-I-P. Ça m'aide vraiment à produire la meilleure des émissions possibles. En attendant, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.